Vous écoutez France Culture. À voix nue. Ce soir encore, Mélanie Chalandon rencontre Florence Delay. Tout de suite, Immortelle après le père.
Bonsoir Florence Delay.
Bonsoir.
Nous vous retrouvons ce soir pour notre dernier entretien. Florence Delay, je rappelle que vous êtes écrivain, que vous êtes également essayiste. Vous avez traduit de nombreux ouvrages de l'espagnol et vous êtes également comédienne et dramaturge. Vous avez été professeur de littérature générale et comparée à la Sorbonne et nous évoquions hier votre parcours d'enseignante. Ce soir, nous allons évoquer un événement important de votre vie, votre réception en 2001 à l'Académie française. Et Florence Delay, vous confessez dans un de vos livres avoir été un peu réticente au premier abord à entrer dans l'Académie française.
Oui, parce que ça me semblait une maison solennelle et je me demandais si elle me si je lui ressemblais ou si elle me ressemblait. Et puis je dois dire que l'idée d'y entrer après mon père, chose qui lui aurait fait un immense plaisir, m'a séduite. C'est cela, venir après lui et surtout précéder, je l'espérais, un certain nombre d'écrivains que j'admire aujourd'hui. Et ça ne s'est pas trop fait. Voilà. Il faut dire, ajouter peut-être, que j'aime les institutions. J'aime le lycée, j'aime l'université et j'aime l'académie parce qu'au fond, elle est un conservatoire, de même qu'il y a le conservatoire d'art dramatique ou le conservatoire des arts et métiers. L'Académie française est le conservatoire de notre langue. Et cela, travailler à la commission des dictionnaires, entrer dans ce bel endroit, ce grand passé, voilà, finalement, j'ai dit oui à la proposition qui était très, très flatteuse, mais ça me faisait un peu peur, voilà.
C'était donc une proposition et vous n'avez pas fait campagne ?
Ah, si, après, on m'a suggéré de la faire. c'est dans l'ordre des choses.
C'est un rite ?
Oui, voilà. Certains vous suggèrent, certains viennent de leur plein gré. Et puis d'autres viennent parce qu'on leur a suggéré de poser leur candidature. Et là, on doit faire une campagne, c'est-à-dire on écrit à chaque académicien pour proposer sa visite. Et voilà. Et certains disent oui, certains disent non. Et puis arrive le jour de l'élection. C'est un jeudi, il pleut. On se dit, mais qu'ai-je fait? Et puis on apprend qu'on a été élu ou pas, un jeudi.
Un jeudi, un 4 de décembre.
Un jeudi.
De l'an 2000. Donc.
Oui, c'est cela. Et j'enseignais encore à ce moment-là. J'étais encore à Sancier. Et voilà.
C'était quand même une joie, Florence Delay, l'élection, d'apprendre que vous étiez élue.
Oui, c'était... en fait, j'étais assez troublée. Mais après, le trouble s'est dissipé parce que j'ai dû préparer une sorte d'agrégation qui était le discours sur mon prédécesseur. Et ça, c'est aussi difficile qu'une question d'agrég, pour la bonne et simple raison que je devais faire l'éloge d'un philosophe dont je n'avais pas lu une ligne.
Donc Jean Guiton.
Voilà, c'était Jean Guiton. Et je me souviendrai toujours avoir reçu une lettre un peu ironique de Chris Marker, se demandant un peu ce que j'allais faire là-bas, mais me disant que Jean Guiton avait écrit un très grand bouquin. et c'était Portrait de Monsieur Pouget. Donc, immédiatement, toute affaire cessante, j'ai lu Portrait de Monsieur Pouget et je suis entrée dans l'œuvre de Jean Guiteau, effectivement, par un chef-d'œuvre.
Et ça vous a plu ?
Ah oui, non, c'est un livre tout à fait extraordinaire. Bon, j'ai lu d'autres choses après, je n'ai pas tout lu, mais j'ai essayé et j'ai mené l'enquête sur un homme que je ne connaissais pas, que je n'avais pas lu. Et cette enquête, au fond, c'était la même enquête que j'ai fait au Pays Basque pour écrire un roman qui s'appelle Etchemendi. Les romans, pour moi, sont des enquêtes. Et finalement, j'ai fait une enquête sur Jean Guiteau et j'ai appris beaucoup, là encore, beaucoup de choses. Et puis ensuite a commencé la vie académique, c'est-à-dire la vie du jeudi, dont la partie passionnante est donc cette commission du dictionnaire à laquelle j'appartiens.
Revenons juste un instant sur l'écriture de ce discours. À la différence du roman, cette enquête devait déboucher sur un éloge. Et il y a une phrase dans votre discours, vous dites « Qu'eût-il pensé d'une femme, lui qui nous jugeait inachevée ?»
Oui,
ça devait être difficile de faire l'éloge avec cette phrase.
Je n'allais pas faire l'économie de toutes les réticences du catholicisme dur et pur envers les femmes. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu à mon tour, une dizaine d'années après Monseigneur d'Agens, qui est évêque d'Angoulême, j'ai rappelé que j'ai fait l'éloge des femmes qui sont les petites mains de l'Église, comme en haute couture, vous avez le couturier, mais vous avez les petites mains qui font tout. Et j'étais heureuse de faire notre éloge dans ce paysage-là.
On se souvient aussi de la première phrase de votre discours. Il me semble, mesdames.
Oui, alors là,
Vous étiez combien de femmes à votre arrivée? Il y avait combien de femmes à l'Académie française, Florence Delay?
Alors, je suis la quatrième. Donc, Marguerite Yourcenar était morte. Et il y avait Hélène Garrard-Dancausse et Jacqueline de Romilly. Donc, elles étaient deux. Mais j'étais tellement contente de commencer par Il me semble, mesdames, qui est une phrase de Marguerite. Enfin, une phrase qu'utilise beaucoup Marguerite de Navarre, la sœur de François Ier, et qui est le titre aussi d'un livre que j'ai écrit, Il me semble, mesdames. Alors c'était, Il me semble, mesdames, que je vous dois autant de reconnaissance qu'à vous, messieurs, qui êtes plus nombreux. Et vous savez, c'est toujours le diapason, la première phrase, hein, c'est le « là ». Et je voulais commencer avec légèreté.
Florence Delay, vous entrez donc dans le lieu des immortels. Profitons-en pour parler un peu de votre rapport à la religion catholique. C'est un rapport qui commence très tôt, puisque vous êtes scolarisée chez les sœurs.
Alors, juste avant de repasser au couvent de l'Assomption, où je suis très petite, j'aimerais juste vous dire que dans la cour, une des cours de l'Académie française, il y a un cadran solaire avec une inscription latine qui dit « Quia breves horas tuas » puisque tes heures sont brèves, voulez à d'illustres travaux. Et ce cadran solaire donc montre la vie est brève, alors ne la perds pas, voula au labeur. Et ça, j'aime beaucoup cette phrase. Donc, oui, alors, je suis élevée au couvent de l'Assomption, et puis j'oublie tout. Je rentre au lycée, et je m'éloigne. Jamais vraiment. Mais voilà, je ne pratique plus, je ne lis pas pendant des années.
Vos parents ne vont pas à la messe ?
Maman, oui. Mon père, non. Maman y va de temps en temps, je l'accompagne, j'ai eu une grand-mère très pieuse, une autre tout à fait agnostique. Mais comment dire, ma vie s'en passe. Et puis, comme très souvent dans mon existence, elle revient. Elle va revenir d'une façon enfin, qui m'émeut encore, c'est à la mort de José Bergamine. J'avais fondé une association de ses amis pour l'aider matériellement, de ses amis français, à laquelle contribuait toujours l'abbé Pezril, qui était à ce moment-là évêque auxiliaire de Paris. Et à la mort de Bergamine, Mgr Pezril a voulu faire une messe à Saint-Séverin, qui était le lieu où il avait rencontré Bergamine en exil. Et Bergamine était venu le trouver parce que Pezril avait accompagné la mort de Bernanos, de Georges Bernanos. Donc vous voyez, il y avait une sorte de chaîne. Et donc, j'ai rencontré à cette occasion le père Pezril et je suis tombée sur un... comme un père de l'Église, quoi. Je veux dire, une espèce de personnalité intelligente et rayonnante. Et donc, j'ai commencé comme ça à lire, à me renseigner sur cette religion que je connaissais par fragments, par lambeaux. Et petit à petit... voilà, j'ai repris le chemin de quelquefois de l'église ou de la lecture. Et puis, en même temps, est arrivée la proposition, cette Bible qui se préparait, cette nouvelle traduction de la Bible, sur des principes très nouveaux, à savoir que chacun des livres de l'ancienne alliance comme de la nouvelle alliance était traduit par deux personnes. Donc un exégète, c'est-à-dire quelqu'un de savant en la matière, un spécialiste, un bibliste, et un ignorant, l'écrivain, mais moins ignorant en sa langue. Donc cette alliance a donné parfois, dans cette nouvelle traduction, de très beaux résultats. Et alors, il y avait donc le retour de l'intérêt très grand pour la religion chrétienne, le travail avec mes exégètes qui m'apprenaient tant de choses. Et c'est à ce moment-là que, hop, je crée un nouveau séminaire qui s'appelle « Histoire de Bible à la Sorbonne ». Histoire comme Godard l'écrit dans « Histoire de cinéma » avec le « S » entre parenthèses, qui est un séminaire ouvert à tout pourvu que les livres choisis, les poèmes ou les romans choisi par mes étudiants, est un rapport avec la Bible. Et c'est immense. Et c'est immense. Donc là, on pouvait aller de Thomas Mann à Melville, etc. Et tout cela a formé un massif où je me suis sentie bien. Et j'y suis toujours.
Et puis Florence Delay, ça n'est pas anodin. Vous avez quand même incarné Jeanne d'Arc quand vous aviez 21 ans, et vous incarnez Jeanne d'Arc pas à n'importe quel moment de sa vie, au moment de son procès, ou au moment où sa foi est mise à l'épreuve. Vous, Florence Delay, à 21 ans, quelle idée aviez-vous à ce moment-là de la foi ?
À 20 ans, rien. À 20 ans, je pensais que c'était une très belle chose pour ceux qui l'avaient. Mais je n'éprouvais pas de sentiment pour l'éternité, pour la parole du Christ, pour... Bon, la parole du Christ, elle est arrivée beaucoup plus tard, et maintenant, elle m'accompagne, et je me suis rendu compte de la chance que j'avais eue de faire Jeanne, mais bien des années après. Sur le moment, j'étais toute...
C'était un rôle comme un autre.
Non, pas comme un autre, mais j'étais encore, permettez-moi de vous dire, à la surface des choses. Enfin, j'y suis toujours d'ailleurs. Mais peut-être j'ai gagné en largesse, peut-être. Et peut-être un peu en hauteur aussi. Mais je descends souvent.
Vous dites souvent que c'est la joie qui vous a rapproché du christianisme.
Oui. Et je dis oui d'autant plus volontiers qu'a prévalu une sorte d'image douloureuse. Qui accompagne les derniers jours du Christ, de la passion, du calvaire, du Golgotha, de la couronne d'épines. C'est oublier les promesses de toute sa vie. C'est les promesses de l'homme qui parle en marchant, de l'homme qui délivre des paroles inimaginables, qui renverse les puissants, qui renverse tout ce qu'on croit être important et qui, à ses yeux, ne l'est pas. Et le sermon des Béatitudes sur la montagne, bienheureux les pauvres d'esprit, bienheureux, etc. Bon, c'est quelque chose, si on reste un tout petit peu avec lui, qui est bouleversant, qui bouleverse l'ordre social du monde. Et c'est cette parole révolutionnaire que je chéris dans les évangiles et puis la lecture de la Bible, de tous les grands livres, des prophètes, enrichit beaucoup. Et vous sépare un peu du quotidien et de la peur de la mort.
Une parole qui est, Florence Delay, vous êtes une grande traductrice, et donc traduire la parole biblique, c'est toucher un peu au sacré. Est-ce que c'est pas la traduction la plus difficile finalement?
Écoutez, non, parce que la Bible a été magnifiquement traduite maintes fois. Il y a beaucoup de traductions que j'aime. Celle de la Bible de ma grand-mère, par exemple, de l'abbé Crampon. Il y a beaucoup de très belles traductions. Mais pour moi, ces traductions, c'est comme un paysage à une heure différente. Il n'y a pas de doute que le paysage à l'aube n'est pas le même qu'à midi ou à 8 heures du soir. Et la Bible, comme tout grand livre, a besoin d'être inlassablement retraduite pour que nous l'entendions. Vous voyez, par exemple, j'ai travaillé l'évangile de Jean. Bon, c'était un travail de fourmi. Il y avait très peu de choses à faire. Mais ce peu de choses est très important. Vous voyez, par exemple, dans l'évangile de Jean, c'est celui où il y a des épisodes, il y a de magnifiques scènes avec des femmes qu'il n'y a pas dans les autres évangiles. En particulier avec une femme qu'on lui amène parce qu'elle a été découverte en train de tromper son mari. Bon. Cet épisode s'appelle « La femme adultère ». Et on lui dit, nous, la loi, nous commande de lapider ces femmes-là. Toi, que dis-tu? Et Jésus garde le silence et dessine dans le sable. C'est un moment poignant. Aujourd'hui, la femme adultère, écoutez, c'est vieilli. L'adultère, on en parle chez les avocats pour le divorce ou pas. Je ne sais pas. Je trouvais beaucoup plus fort de dire la femme infidèle. Parce que l'infidélité, c'est beaucoup plus grave que l'adultère. Et donc, mon travail, c'était infime. C'était de mettre infidèle au lieu d'adultère. Voilà.
C'est infime et ça change beaucoup de choses.
Mais je crois. Parce que ça permet à des gens jeunes, par exemple comme vous, de comprendre une scène que le mot adultère rendait brusquement un peu noble et éloigné.
La Bible, Florence Delay, premier texte féministe? C'était un peu une provocation, oui.
Oui, non.
Je vous dis ça parce que vous rappelez un jour, et je crois que c'est justement dans votre discours d'accueil à Mgr Claude Dagen à l'Académie française en mai 2009, vous rappelez « Rien dans les évangiles n'annonce semblable opprobre. Nous sommes, avec les apôtres, premières amies du Christ. » Vous parlez des femmes à ce moment-là.
Oui, mais c'est évident. Le Christ dit qu'il est, pour la première fois, à une femme, à la Samaritaine. C'est une femme qui le voit pour la première fois après sa résurrection. C'est Marie-Madeleine. Elles sont là. C'est elles qui sont au pied de la croix. C'est une femme qui verse du parfum sur lui et on critique et il dit mais il aime ce geste. Non, on est très présente et on est ses amis comme les apôtres.
Est-ce qu'il y a des fois dans votre vie, Florence Delay, où vous vous êtes sentie féministe, où vous êtes et dite féministe?
Dans d'autres pays que le mien, oui. Ici, je crois qu'on a le travail est fait d'une certaine façon, même s'il y a encore des inégalités. Mais en revanche, mon cœur se serre en pensant...
C'est le décentrement dans d'autres pays qui...
où je trouve certains sorts...
Quel pays, quelle destination?
Écoutez, ça m'est difficile de parler à la place des autres. Mais j'ai beaucoup de mal à voir une femme en burqa. Parce que je pense que... Parce que pour moi, mais française, occidentale, c'est comme une cage. Et ça me fait penser à la phrase de Kafka, « Une cage s'enfuit à la recherche d'un oiseau. » Et quand je vois la burqa, je me dis, c'est comme une cage qui enferme un oiseau. Mais peut-être que je me trompe, je n'en sais rien.
Florence Delay, parallèlement à votre travail de traduction sur les textes de la Bible, vous continuez à écrire pour vous, à écrire des romans.
Bien sûr, et le roman me sert aussi à explorer des territoires inconnus. Par exemple, j'ai écrit un roman que j'aime bien, qui s'appelle « La fin des temps ordinaires », parce qu'un jour, j'avais été très surprise d'apprendre qu'on était dans le temps ordinaire. Il est vrai que la religion chrétienne est pleine d'événements extraordinaires. La résurrection, la nativité, l'ascension. Mais il y a un temps ordinaire. Et cette expression m'a brusquement saisie. Et j'ai imaginé l'histoire d'un cordonnier, je ne dirai pas pourquoi, dont le modèle est bâillonné, et de ses amis du Sud-Ouest, qui aiment la pelote basque et les taureaux, qui allait se convertir. J'ai écrit un roman sur la conversion, et au départ, pour essayer de savoir ce que c'était que méditer, parce que la méditation, je ne sais pas ce que c'est, j'ai jamais pu méditer. Et je me suis dit, je vais tout savoir quand j'aurai fini mon roman. Eh bien, pas du tout. C'est à la dernière page que Labarthe, mon héros, s'en va dans les Landes pour essayer d'avoir un été un peu spirituel. Il se passe plein d'autres choses, mais en fait, ce roman est sourdement l'histoire d'une conversion. Et c'est très simple. J'avais été en Inde 2 mois avec Jean Echenoz. On avait fait une tournée des Alliances françaises de l'Inde. Et j'étais revenue avec l'image de la pauvreté, de la misère. Et brusquement, j'ai vu qu'elle était à Paris, qu'elle était là. C'était pas la peine d'aller en Inde pour la voir. Et j'ai imaginé donc que le cordonnier, un jour, voit passer dans la rue un homme pieds nus. Et un grand trouble naît. De ce passage. À mon avis, c'est le Christ. Mais tout est pris dans un contexte joyeux de copains, d'aventures de beaucoup de personnages. Et c'est une conversion heureuse. Puisque, comme vous le savez, j'essaye toujours de rester proche de la joie.
Alors que les conversions dans l'histoire, et notamment dans l'histoire espagnole, sont loin d'être heureuses.
Oh oui,
il y a une grande histoire de la conversion forcée.
Oui, mais oui, là vous parlez du drame juif. Mais n'oubliez pas par exemple que si Thérèse d'Avila s'est convertie en lisant des romans de chevalerie, et d'ailleurs c'est un chevalier, Thérèse d'Avila, Ignace de Loyola, lui qui était un jeune homme coureur et bagarreur et très éloigné de la religion, s'est converti après une blessure infligée par les Français, merci la France, et il n'y avait rien dans la maison de ses parents, il n'y avait pas de roman de chevalerie, donc il a pris ce qu'il y avait, c'était la légende dorée de Jacques de Voragine, et en lisant toutes ces vies de saints, il s'est dit, mais enfin, moi aussi je pourrais faire ça. Et il a créé la Compagnie de Jésus. Donc vous voyez, la lecture mène à tout.
On a dit, Florence Delay, que vous êtes entrée, on parlait de l'Académie française, vous avez été élue en 2000 et vous êtes reçue en 2001, et c'est à peu près à cette période que vous quittez la Sorbonne, que vous quittez l'enseignement ?
Oui. Oui, je suis partie.
Et comment se fait ce passage de l'un à l'autre ? C'est assez naturel ou le passage d'une institution à l'autre, finalement ?
Oui, mais à l'époque, on nous poussait gentiment vers la sortie, à 60 ans. On obtenait un demi-service et voilà. Et moi, je souhaitais avoir un peu plus de temps pour travailler pour moi. Et donc, j'ai quitté ce métier très aimé en me disant peut-être qu'il était temps de quitter la jeunesse, peut-être.
Florence Delay, vous avez coutume de dire que parmi les facultés de l'âme, la mémoire est celle que vous possédez le moins et même que vous défendez l'oubli.
Est-ce parce que je suis oublieuse, j'oublie beaucoup ? J'oublie les blessures, mais j'oublie aussi des choses aimées. Des livres aimés, donc je les redécouvre. L'oubli permet de commencer sans cesse. Et puis l'oubli est proche peut-être du pardon, est une forme du pardon. Et je crois que il ne faut pas oublier les événements cruels. Il faut peut-être les pardonner. Mais moi je sais que l'oubli m'a aidé dans la vie. Hélas, on n'est pas maître. Et les rêves ou un parfum ou un paysage ramènent quelque chose qui fut douloureux. Mais bon.
Je vous remercie, Florence Delay.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Mélanie Chalandon avec Florence Delay. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son François Rivalan, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.